Aujourd'hui, on continue un message sur la série sur les armes et la puissance de Dieu que Dieu a donné aux humains, mais qu'on réalise pas qu'ils sont là. Aujourd'hui, on voit encore une de ces armes-là que Dieu a donné aux humains. C'est pas la plus importante, parce qu'elles sont toutes aussi importantes. C'est comme si on dirait, dans le mur de briques en face, là, cette brique-là est plus importante. Elle n'est pas réellement plus importante, parce que l'autre brique aussi est importante. C'est l'ensemble des briques qui forment la façade. Fait quand on peut pas comparer qu'est-ce qui est mieux dans l'œuvre de Dieu, quelle arme de Dieu qui est supérieure à l'autre. Ils sont toutes égales, puis c'est un ensemble. Une armure, c'est un ensemble de plusieurs pièces qui forment que ça nous équipe. Puis le fait d'en parler, comme j'ai déjà mentionné, que le fait d'en parler, c'est dans le but qu'on réalise que c'est là. Ça nous fait du bien de se le rappeler, mais c'est encore meilleur quand on commence à l'utiliser. Parce que quand on utilise les armes de Dieu, il se passe quelque chose. C'est au-delà des lois naturelles de la vie terrestre. On va prier. Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on est rassemblés. Je te remercie, Seigneur, d'être là. Je te remercie de ce que tu veux faire ou encore à travers le message de ta parole. Parle à nos cœurs ce matin. Édifie-nous, fortifie-nous, qu'on puisse se solidifier dans le Seigneur, puis marcher avec toutes tes armes, équipées pour combattre contre le diable puis contre les choses de ce monde. Je remets nos ventres entre tes mains, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, l'arme qu'on va voir, c'est l'autorité du nom de Jésus-Christ. Il y a une autorité dans ce nom-là. Aujourd'hui, on entend le monde dans la société qui utilise le nom de Jésus là, en blasphème, en insulte. Ils prennent le nom du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, puis là, ils le mettent dans leurs phrases, puis avec des maudits en plus devant, comme pour maudire le nom du Seigneur, puis de maudire le nom de Dieu. C'est un nom sacré, le nom de Jésus-Christ. C'est le nom du Dieu créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé l'univers et tout ce qu'on voit. C'est lui qui nous a créés aussi. Puis ce qu'on va voir aujourd'hui, là, ça va nous aider à remettre le nom de Jésus à sa place, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. Vous êtes-vous déjà demandé d'où vient l'autorité du nom de Jésus? Pourquoi que ce nom-là a-t-il une si grande autorité? Quand on va passer à travers des passages, vous allez vous rendre compte comment est-ce que Dieu a élevé ce nom-là pour être le nom au-dessus de tout nom. C'est Dieu qui a placé ce nom-là qui pouvait sauver, délivrer, guérir, transformer, changer les choses de cette vie par des miracles, des signes, des prodiges. Tout se produit dans le nom de Jésus. Il s'en est produit plein de miracles, là, 2000 ans, dans son nom, puis il s'en produit encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard. On a affaire au nom qui est au-dessus de tous les noms, parce que c'est Dieu lui-même qui l'a élevé, ce nom-là, pour qu'il soit utilisé. Parce qu'il n'existait pas dans l'Ancien Testament. Il existait dans certains personnages, mais sans aucune autorité. Mais quand le personnage est venu, Jésus-Christ de Nazareth, qui est Yeshua et Amashia, son vrai nom en hébreu, il est venu, il est né au monde à travers d'une vierge, et etc., c'est ce qu'on va voir. Dieu venait de mettre son Fils au monde sans l'intervention d'aucun homme. C'est le Saint-Esprit qui a touché Marie. Puis cet enfant-là qui est venu au monde est venu pour accomplir toutes les promesses de l'Ancien Testament. Tout ce qui était annoncé à propos du Messie, Jésus l'a accompli. Puis Dieu le Père a élevé son nom à ce Messie-là pour le mettre en position du nom au-dessus de toute puissance satanique. Il n'y a aucun démon dans le monde des ténèbres qui est supérieur au nom de Jésus-Christ. Encore plus fort que ça, tous les démons ont fléché le genou devant ce nom. D'où vient l'autorité du Seigneur Jésus-Christ? C'est que, premièrement, il faut comprendre que Jésus-Christ, avant qu'il vienne au monde, là, 2000 ans, il existait, puis c'est lui qui était le créateur de toutes choses. Il s'appelait pas Jésus-Christ, il s'appelait pas Yeshua, il s'appelait la parole, le verbe, le logos, ou l'éternel, Yahweh. Il y a plein de versets qui se rapportent que c'est Jésus-Christ qui est le Yahweh de l'Ancien Testament. Ça nous dit dans la parole de Dieu, dans Colossiens 1:16, « Car en Jésus-Christ ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. » Jésus là a créé toute chose, puis toute chose a été créée pour lui. C'était le but pourquoi Dieu a créé l'ensemble des anges. C'est dans le but qu'ils ont été créés pour Jésus-Christ. Puis tous les humains sur la planète ont été créés par Jésus-Christ, puis pour Jésus-Christ, pour élever son nom. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. C'est par le Seigneur Jésus-Christ que toute chose que vous voyez se maintient en existence. Chaque cellule, chaque molécule, chaque atome de tout ce qui est matérialisé dans le monde matériel est maintenu en existence et en forme de ce qu'on est par sa puissance qui nous maintient en vie. Un seul moment que Jésus-Christ arrêtera de penser à moi, Daniel Poulain, je disparaîtrai. J'existerai pas. Je serais comme si j'aurais jamais existé. Si je suis là devant vous, c'est parce qu'il me maintient en vie devant vous. Chacun de vous, c'est la même chose, que vous le sachiez ou pas. Jésus-Christ vous tient dans sa main puis vous garde en vie. Jusqu'au jour où il a décidé où vous allez partir de ce monde. Amen. Toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Voyez-vous, si Jésus-Christ a une autorité quelconque, c'est parce qu'il existait avant de venir sur la terre, voilà 2000 ans. C'est ce que la Bible nous enseigne dans plusieurs passages, que Jésus-Christ est le Dieu éternel. Celui qui existait avant même que le premier atome de la matière de cet univers fût créé. Dieu exista de toute éternité, puis c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, les trois étaient un seul Dieu, puis existaient de toute éternité. S'il y a une autorité dans le nom de Jésus, c'est parce qu'il est le Créateur de toutes choses, puis je pense que c'est une bonne raison. Quand tu es le propriétaire de quelque chose, tu es libre d'en jouer comme que tu le veux. C'est pour ça que tout a été créé par lui et pour lui. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour nous. Nous sommes là pour servir à la gloire de son nom. Mais quand Jésus est venu sur la terre, vous allez comprendre une vérité. Il n'a pas cherché à s'élever lui-même puis à prendre une autorité quelconque par lui-même. Puis j'allais voir que ça fait une grosse différence. Puis la Bible nous enseigne, à nous chrétiens, d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça nous dit dans Philippiens 2, au chapitre 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, Jésus, il existait en forme de Dieu, puis il n'a pas regardé comme si c'était une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un simple homme, puis s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Ce qu'on doit comprendre là-dedans, jamais Jésus-Christ n'a cherché à s'élever en autorité sur la terre. Puis vous allez comprendre d'où lui venait cette autorité. Parce que c'est ça qu'on est en train de regarder aujourd'hui. L'autorité du nom de Jésus-Christ. Puis la Bible nous présente un Jésus-Christ en forme humaine comme un simple homme, comme un homme ordinaire. Puis qu'un homme ordinaire qui savait qu'il venait de Dieu, qui était dans la forme de Dieu, c'est un homme ordinaire qui savait qu'il était dans la forme de Dieu, puis il n'a pas regardé comme... « Faut que je m'élève, puis faut que je sois comme Dieu, puis faut que je prenne le contrôle comme Dieu. » C'est tout le feeling que nous, humains, on serait portés à penser si on arrête cette autorité-là. Jésus-Christ, il s'est humilié, il s'est abaissé, il s'est rendu obéissant, même si ça serait d'aller jusqu'à mourir sur la croix comme une honte devant tout le monde, humilié, craché dessus, battu par ses créatures. Il a accepté d'aller là, malgré qu'il était Dieu. Il y a toute une leçon là-dedans, puis vous allez comprendre où ce que je vais en venir quand on va commencer à lire les autres passages. Vous allez comprendre que Jésus s'est jamais élevé pour être dans cette autorité, puis c'est Dieu son Père qui l'a élevé pour être dans cette autorité. Tout ce que Jésus était, cela a été donné par son Père. Il y a un verset qui dit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui est donné d'en haut. » Si Jésus a prononcé cette phrase-là, c'est parce qu'il reconnaissait que tout ce que lui avait, Jésus, c'est le Père qui le donne. Jésus n'a pas essayé d'établir ses propres mérites ou sa propre réputation ou essayer de faire par lui-même ce qu'il avait à faire. Il s'est confié à ce que Dieu le Père le conduise dans son cheminement sur la terre. Il s'est humilié pour se rendre comme un simple homme. Vous allez comprendre pourquoi c'est important que nous aussi, si nous voulons marcher dans l'autorité du nom de Jésus, nous devons penser avec les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jean 8, 28, Jésus est en train de parler, puis il dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Chaque moment que Jésus-Christ passait sur la terre là avec ses disciples, puis en train de faire des miracles et ainsi de suite, il dit dans cette phrase-là, il est là, mais qu'il fait rien de lui-même. C'est pas lui qui décide qu'est-ce qu'il est en train de faire. C'est le Père qui lui enseigne ce qu'il a à faire. Tout ce que Jésus a fait sur la terre, c'était le Père, Dieu le Père, par le Saint-Esprit, qui conduisait Jésus à faire ci ou à faire ça. Vous allez comprendre pourquoi. Un autre passage qui parle dans le même sens, Jean 5, 20. « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Jésus-Christ n'a pas cherché à s'élever, il a paru comme un simple homme, mais il était à l'écoute de son Père, puis il se laissait diriger par le Saint-Esprit dans tout ce qu'il avait à faire dans ce monde. Vu qu'il n'a pas cherché sa gloire, puis il n'a pas cherché à établir sa propre gloire, il travaillait pour la gloire du Père. Le Père aimait Jésus, puis le Père montrait à Jésus tout ce qu'il avait à dire, tout ce qu'il avait à faire, puis même chaque œuvre qu'il avait à faire. Comme là, il dit, le Père va me montrer comment ressusciter des personnes mortes, puis Jésus l'a fait par après. Il a parlé à une jeune fille qui a dit « Talita Kumi », lève-toi, jeune fille, je te le dis. Puis la fille qui était morte est ressuscitée. Un autre moment, il a rendu un jeune homme, Lazare, un jeune homme, à un moment donné, une veuve. À plusieurs moments, Jésus-Christ a ressuscité des personnes mortes, il a guéri des malades, etc. Mais il faisait ce que le Père lui disait, ce que le Père lui dictait. Même son nom, là, on parle de l'autorité du nom de Jésus-Christ, son nom lui-même, c'est pas Jésus qui l'a décidé, c'est quoi qui était pour être son nom, c'est le Père. Dans Matthieu 1:20, ça nous parle, lorsque Marie est tombée enceinte, il y a un ange du Seigneur qui apparaît à Marie, puis il a dit, là, tu vas tomber enceinte. Puis l'enfant que tu vas porter, tu vas lui donner le nom de Yeshua. Cet ange-là, il parlait à Myriam, puis Myriam a parlé l'araméen. Son nom que Jésus-Christ a reçu, c'était Yeshua. Ça a été traduit en français par Jésus-Christ, mais son vrai nom, c'est Yeshua. Puis on voit ça dans Matthieu 1:20. Un ange du Seigneur lui apparut en songe, puis il dit à Joseph, fils de David, « Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Yeshua, qui veut dire en français Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Fait que le nom qui devait être élevé dans le ciel, le nom de Yeshua, traduit en français, c'est un nom qui a été révélé par le Père. Et le Père a dit ça à l'ange, va dire ça à Joseph et Marie, c'est Yeshua qu'il faut que tu l'appelles. Qui veut dire sauver, délivrer, que Dieu sauve son peuple. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, le nom de Jésus-Christ, le nom de Yeshua, la renommée de Jésus-Christ, elle se répandit dans toute la Syrie. Lui, Jésus, il n'a rien fait pour que sa renommée soit répandue, mais le Père a opéré des signes, des prodiges, des miracles. Tout le monde le savait que le Messie était là. Toute sa renommée se répandait partout. Lui, il était comme un simple homme, puis il recherchait pas sa gloire. Il recherchait juste la gloire de son Père. Il se laissait diriger par lui. Le Saint-Esprit a conduit Jésus à faire toutes sortes de miracles. Puis là, sa renommée, sa popularité, le nom de Jésus, de Jésus-Christ, le nom de Yeshua, sa renommée, a commencé à être élevée. C'est le Père qui a élevé le nom de son Fils, puis que tout le monde, parce que le renommée, là, ça veut dire d'élever un nom. La renommée de Jésus-Christ est en train de se faire. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divers genres, de démoniaques, de lunatiques, de paralytiques, et il les guérissait. Les miracles se produisaient à travers de Jésus-Christ, puis le nom de Jésus-Christ était de plus en plus élevé. Là, on voit dans la suite, dans Luc 4, 32, que Jésus-Christ prêchait avec une autorité. Il ne recherchait pas l'autorité, mais il enseignait ce que le Père lui disait d'enseigner. Puis il parlait de la façon que le Père lui disait de parler. Puis il avait une autorité quand il prêchait. Puis en plus de ça, il avait une autorité contre les esprits impurs parce qu'il pouvait lui commander de sortir. Puis ils obéissaient. Dans Luc 4, 32, ça nous dit, « On était frappés de sa doctrine car il parlait avec autorité. » L'autorité du nom de Jésus commençait à s'élever. Luc 4, 36, quand après qu'il chassait un démon dans une assemblée, tous furent saisis de stupeur, puis se disaient les uns aux autres, « Quelle est donc cette parole? Il commande avec autorité aux puissances des esprits impurs, et ils sortent. » Le nom de Jésus-Christ commençait à s'élever, puis commençait à avoir une autorité. Il prêchait avec autorité, il commandait aux démons de sortir, de quitter, il guérissait les malades. La puissance du nom de Jésus-Christ commençait à se répandre. Puis c'est pas Jésus qui le faisait, c'est Dieu le Père qui le faisait. Amen. Amen. Jésus-Christ, après ça, dans ses enseignements, est encore en train d'enseigner, encore dans la même pensée, que c'est Dieu le Père qui lui a donné le pouvoir sur toute chair. Wow! Là, ça commence à être puissant. Dans Jean 17,2, là, Jésus est en train de parler à son Père dans une prière. Il dit, « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, en parlant de lui, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. » L'autorité et le pouvoir de Jésus-Christ s'en allaient en augmentant. Puis Dieu le Père a donné l'autorité à Jésus de décider qui va être sauvé, puis qui ne le serait pas. Qui va rentrer dans le ciel, puis qui rentrera pas dans le ciel? Qui va rentrer dans le paradis, et qui rentrera pas dans le paradis? Qui rentrera pas, s'en va dans l'étang de feu. Il y a juste deux endroits à l'autre bord. Puis il y en a un seul qui décide où ce qu'on va être l'autre bord. C'est Jésus-Christ qui a reçu l'autorité de décider qui rentre au ciel, puis qui va être jeté dans l'étang de feu. Voyez-vous comment est-ce que son nom commence à avoir une autorité puissante? C'est lui qui décide de notre sort éternel. C'est lui qui décide de mon sort éternel, puis de votre sort éternel. Après sa mort, après qu'il ait dit ça, il est mort sur la croix parce qu'il fallait qu'il paye pour la dette des péchés, parce que c'était écrit dans l'Ancien Testament que le Messie devait prendre sur lui les péchés de l'humanité. Il devait mourir sur la croix. Lui, le seul innocent sur la planète, il a accepté de prendre les péchés de tous les coupables. Il les a pris sur lui, puis il a accepté de mourir volontairement en se donnant pour payer pour la dette des péchés de tout le monde. Par là, il fallait qu'il paye ce sacrifice-là pour que quiconque croit en son sacrifice puisse obtenir le pardon des péchés gratuitement, Seulement que par la foi, tu peux saisir le pardon de tes péchés pour être pardonné, être lavé de tes péchés, puis recevoir le Saint-Esprit, recevoir une nouvelle vie qui est offerte en Jésus, puis pouvoir avoir ton nom d'inscrit dans le livre de vie. Jésus-Christ, il fallait qu'il paye à la croix. Mais quand il est ressuscité, il n'est pas resté sur la croix. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. C'est là qu'il est le plus puissant. Il est allé voir ses disciples, puis il leur a dit, dans Matthieu 28, 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Wow! Tout pouvoir venait lui être remis. Là, vous allez me dire, oui, mais pourquoi qu'il avait l'autorité avant, puis qu'il fallait que ça soit juste après la résurrection, qu'il réobtienne le tout pouvoir? Parce que, dans d'autres passages, ça nous dit qu'il fallait que Jésus, même si Jésus avait le tout-pouvoir avant de venir sur la terre, il a accepté de quitter cette place, puis toute sa puissance qu'il avait auprès de son Père, pour venir qu'en forme humaine, qu'en forme comme un simple homme. Il a quitté ses attributs divins pour venir en forme humaine, pour venir accomplir une mission, puis après, quand il est mort puis qu'il est ressuscité, il a reçu tout-pouvoir. Puis là, dans ces mêmes versets-là, vous allez voir un peu plus loin, quelques versets plus loin. « Et je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ça ne nous parle pas juste qu'il a reçu tout pouvoir, mais il est omniprésent, il est partout en même temps, avec tous ses disciples à travers toute la planète. Puis en plus de ça, il est éternel, parce qu'il dit « c'est jusqu'à la fin ». Il n'y a plus de fin, il n'y a pas de fin, Jésus-Christ. Il vit éternellement. Il a reçu ses attributs divins qu'il avait avant de venir. Il était éternel, il était tout-puissant, puis il avait aussi le pouvoir sur toute chair, mais il venait en forme humaine, puis Dieu lui a tout redonné. Merci Seigneur. On voit là-dedans que c'est Dieu le Père qui a élevé son Fils pour l'établir. Vous allez le voir dans d'autres passages, ça nous parle de la même idée, c'est extraordinaire. C'est Dieu le Père qui a positionné son Fils en autorité au-dessus de toute autorité. Parce que des autorités dans le ciel, il y en avait. Il y avait Dieu. Il y avait des dominations, des autorités, des pouvoirs, puis des esprits dans le monde invisible. Puis dans le monde terrestre, il y a aussi des autorités, des rois, des juges, des autorités terrestres. Il y a des autorités dans le monde invisible qui sont Dieu et toutes les autorités angéliques, des anges puissants, puis comme des rois parmi les anges, puis ainsi de suite. Puis quand une gang se sont rebellés contre Dieu, fait que ces autorités-là sont encore là. Mais Jésus-Christ, après sa résurrection, il est retourné s'asseoir à la droite de son Père, au-dessus de toute autorité. Il est au-dessus de tout ce qui est de toutes sortes de formes d'autorité dans le monde invisible ou dans le monde visible. Dans Éphésiens 1, 20, ça nous dit que Dieu a déployé sa puissance, sa force, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qu'on peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, puis il a donné aussi la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Hey, c'est quelque chose, là, on n'a pas affaire au petit Jésus dans la crèche. On n'a pas affaire au petit Jésus sur le crucifix. On a affaire à Yeshua et à Mashiach, le Messie, loin de Dieu, qui vit éternellement et qu'il est le Créateur de toutes choses, puis il a la plénitude de tout, il est le chef suprême de l'Église, il a le nom au-dessus de tout nom qui peut se nommer, il n'y a personne qui est plus grand et plus puissant que lui. Amen. C'est le Tout-Puissant, il a dit « Tout pouvoir m'a été remis ». Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Il n'est pas juste le Seigneur. Ça nous dit qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois, le Tout-Puissant, l'Éternel. Hey, c'est extraordinaire. Dieu a établi que le nom de son Fils soit l'autorité suprême et confessé comme tel. Parce que c'est pas juste de le savoir qu'il est l'autorité. Dans Philippiens 2:9, ça nous dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, on voit encore que c'est Dieu qui a élevé le nom de Jésus-Christ, le nom de Yeshua et Hamashiach. Dieu l'a souverainement élevé, puis il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yeshua, tous les genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre, puis que toute langue va confesser « Yeshua est Seigneur ». Il n'y a personne qui ne le confessera pas. Même le diable va le confesser avant de jeter dans l'étang de feu. Puis chaque être humain, les rebelles comme les ceux qui sont soumis à Dieu, vont le confesser. Ceux qui sont soumis à Dieu, on le confesse à tous les jours. On est content de le dire. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. On le dit dans nos prières. On y parle au Seigneur. On y dit. On chante des chansons. On lui dit. On a accepté qu'il soit le Seigneur. On s'est soumis à sa volonté. On s'est engagé à devenir son disciple. Puis on marche dans son armée. On fait partie de ses enfants. Parce qu'on croit qu'il est venu v'là 2000 ans, puis on croit qu'il est ressuscité, puis on croit qu'il a cette position que je suis en train de vous enseigner aujourd'hui. Il est là, puis tout, que les gens le veulent ou non, ils peuvent dire non quand tu lui présentes Jésus-Christ. « Oh, j'ai pas le temps de m'occuper de ces niaiseries-là. » Peut-être qu'ils peuvent dire ça aujourd'hui. Ou ils peuvent se servir du nom de Jésus-Christ pour blasphémer, puis dire des insultes. Mais un jour, ils vont mourir. Ils vont comparaître devant le Créateur, puis ils vont avoir à rendre compte de chacune des paroles puis des agissements qu'ils auront proférés. Puis les gens, ils vont être humiliés, puis ils vont tomber sur la face, puis ils vont pleurer, puis ils vont confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Mais c'est mieux de le faire pendant qu'on est vivant, parce que quand on est mort, il est trop tard. C'est quand on est vivant qu'on peut aller à Jésus-Christ pour recevoir ses cadeaux, d'être pardonné, d'avoir la vie éternelle, de pouvoir rentrer gratuitement au ciel. Il faut aller à lui volontairement, puis parce qu'on l'aime et non pas parce qu'on est forcé. Il nous aime, puis il nous appelle à lui, à aller à lui, puis à vivre sa vie en contact avec lui sur cette terre. En contact avec celui qui a le nom au-dessus de tout nom. C'est quelque chose. À cause de la victoire de Jésus-Christ, à cause de ce qu'il a accompli il y a 2000 ans sur la croix, à cause qu'il est venu payer pour la dette de nos péchés, son nom est devenu une autorité qui peut ouvrir des portes sur beaucoup de choses maintenant. Plusieurs personnes, des milliards de personnes sur la terre ont vécu des expériences extraordinaires à cause du nom de Jésus-Christ. Ça nous a ouvert des portes. C'est une autorité, ce nom-là. Vous allez voir dans quel sens qu'on obtient plusieurs choses dans le nom de Jésus-Christ. Premièrement, qu'est-ce qu'on obtient en son nom? En son nom, on obtient le pardon des péchés. Hey, n'est-ce pas extraordinaire? À cause de son nom, on obtient le pardon de nos péchés. Dans Actes 2:38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Wow, c'est beau ça! Quel avantage qu'on a dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, c'est le seul nom qui peut pardonner des péchés. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui peut nous sauver. C'est le seul qui est l'autorité suprême. Puis si vous connaissez son nom en hébreu, c'est Yeshua, qui veut dire... Une traduction plus juste en français, ça sera Josué. Mais ça, les traductions, c'est pas nous autres qui étaient là pour faire la langue française, puis le dictionnaire, ça aurait dû être Josué. Mais au moins qu'on le sait que c'est Yeshua, son vrai nom. Puis à cause de son nom, on peut être pardonné de nos péchés. C'est extraordinaire. Une autre belle affaire qu'on peut recevoir dans son nom, on reçoit le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit du Créateur vient rentre dans toi, puis ton corps devient à être le temple du Dieu vivant, le temple du Saint-Esprit. Jean 14, 26, ça nous dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. » Attendez-vous pas de recevoir le Saint-Esprit dans un autre nom, comme si toutes les religions seraient pareilles. Je regrette, la Bible est claire. Nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit dans le nom du pape, ou dans le nom de Marie, ou dans le nom d'un saint qui est décédé, ou dans le nom de votre grand-mère, ou de Bouddha, ou d'un des dieux Krishna, avec toute sa gang de dieux de la mythologie de l'hindouisme, ou de la mythologie grecque ou romaine. Peu importe le dieu que vous servez, il n'y a aucun autre nom qui peut vous donner le Saint-Esprit. Il n'y a aucun autre nom qui peut vous donner d'être en contact avec le Dieu vivant. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Hallelujah! Merci Seigneur. Il faut que tu passes par Jésus pour recevoir premièrement le pardon. Après ça, tu peux, tu as une possibilité de recevoir le Saint-Esprit. Mais passons pas par d'autres portes parce qu'il n'y en a pas d'autres portes pour les obtenir. Qu'est-ce qu'on peut expérimenter encore dans le nom de Jésus-Christ, pour ceux qui veulent en vivre plus? On peut expérimenter la présence de Dieu. Matthieu 18, 20. Car là, deux ou trois qui sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Hallelujah! Gloire à Dieu! C'est pas quand on est réunis pour écouter un match de hockey que ça nous dit dans ce verset-là, ni pour écouter un film, ni pour jouer un jeu sur Internet. C'est pas dans ces moments-là que tu vas vivre et expérimenter la présence de Dieu. C'est quand tu es réuni dans le but d'être dans le nom de Jésus. C'est là que Jésus-Christ va être là. Fait que la meilleure place pour ça, c'est où? Dans nos temps de prière à maison? Quand il parle 2-3, ça veut dire 2-3, ça ne prendra pas gros 2-3. Un homme et une femme, ou deux personnes qui se réunissent ensemble, à l'église, ou dans une réunion le mercredi, tu es rassemblé avec d'autres chrétiens, dans le but de pouvoir, tu es rassemblé dans le nom de Jésus, tu vas vivre la présence de Dieu, parce que le Saint-Esprit va être là, Jésus-Christ va être là à cause de son nom, de son nom qui est invoqué. Ça nous rouvre des choses d'être là, dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'on obtient encore à cause du nom de Jésus-Christ? On obtient des exaucements de prière. Dans Jean 14, 13, ça nous dit, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Jésus qui parle. « Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Il dit, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Qu'est-ce qu'on obtient? J'avais des besoins, j'avais des problèmes, des difficultés. J'avais des choses, j'avais besoin de guérison, j'avais besoin d'une délivrance, j'avais besoin de que Dieu vous aide financièrement, j'avais besoin d'un travail, j'avais besoin d'une compagne de vie, j'avais besoin de n'importe quoi. Tout ce que vous demanderez en mon nom, on peut utiliser le nom de Jésus dans nos prières pour être exaucé. Ça veut dire que quand on fait une prière, puis si vous remarquerez que la majorité des chrétiens qui ont compris cela, quand ils finissent leur prière, ils disent « Je te prie dans le nom de Jésus ». On prie le Père dans le nom de Jésus. On finit toujours nos prières comme ça parce qu'on le sait que c'est en son nom qu'on est exaucé. Amen. Extraordinaire. Dans Jean 16, 24, un autre verset qui parle de la même idée. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. On est encouragé à demander dans son nom. Puis il est en train de lui dire, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Demandez-en, vous allez en avoir. Pourquoi? Parce que quand je me présente à Dieu, Oh Seigneur, moi je suis un gars qui est bien fidèle, je paye ma dîme, je fais si je suis bon. Je mérite que tu m'accordes cette prière. J'avais bien fait de ne pas dire amen à cela. Il n'y a pas une personne ici qui mérite quoi que ce soit. C'est pas des farces, qu'est-ce que je vous dis là. Il n'y en a pas un ici qui mérite quoi que ce soit. On était tous des perdus, des pécheurs, qu'on était pardonnés. Mais on en fait encore des péchés, puis on a toutes des vies. Si on se fie sur nos mérites pour dire qu'on mérite quelque chose de la part de Dieu, on n'aura rien. Mais si tu te présentes dans le nom de Jésus, c'est pas parce que tu es meilleur, c'est parce que c'est Jésus qui est meilleur. Son nom est déjà garanti d'être exaucé. Il nous dit, priez, demandez dans mon nom si j'allais être exaucé. C'est extraordinaire. C'est à cause de ses mérites à lui. Mais doutez pas. Mais présentez des requêtes en disant, Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus parce que je sais, moi, je mérite rien, mais Jésus mérite tout. C'est Jésus qui me dit de te le demander dans son nom. C'est comme si, mettons, Pierre, il n'y a pas d'argent, puis il faut aller chercher quelque chose au magasin. Puis moi, j'ai un compte ouvert. J'arrive au là, m'aller sur mon compte. Ben, il s'en va au magasin, puis il dit, mets ça sur le compte de Daniel. À cause du nom de Daniel, il aura pu avoir l'objet qu'il va avoir. Mais c'est de même que ça marche. Jésus-Christ a déjà tout payé, son compte est ouvert pour recevoir toutes ses bénédictions. On a juste à s'approcher de lui dans son nom, puis aller chercher les bénédictions qui sont là dans les lieux célestes. En son nom, nous obtenons des guérisons pour nous-mêmes puis pour les autres. Il y a un verset qui nous dit dans Actes 3:16, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en celui qui a été, c'est la foi en lui, en Jésus-Christ, qui lui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. C'est par la foi en son nom que les apôtres avaient obtenu une guérison pour cette personne-là qui était boiteuse. On peut recevoir des guérisons pour nous puis pour les autres si on s'approche de Dieu en son nom. C'est extraordinaire. Quel nom, avec quelle autorité. En son nom, on peut obtenir des délivrances pour nous-mêmes puis pour les autres. Dans Luc 10, 17, les 70 disciples revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Les démons sont soumis dans le nom de Jésus-Christ. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. À cause du nom de Jésus, les démons sont soumis, puis on obtient des délivrances aux gens, puis dans nos vies, on peut obtenir des délivrances dans nos vies, puis dans la vie des gens, à cause du nom de Jésus. Une autre belle affaire qu'on a en son nom, qu'on n'entend pas souvent, ce verset-là, mais je l'ai trouvé super, c'est qu'en son nom, dans le nom de Jésus, les portes nous sont ouvertes. Apocalypse 3:8, il dit, « Je connais tes œuvres parce que tu n'as plus de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Wow! Toutes les bénédictions qu'on reçoit aujourd'hui, c'est des portes ouvertes que Dieu nous donne parce qu'on garde sa parole et qu'on ne renie pas son nom. On demeure dans son nom, on obtient ses faveurs. Dieu nous bénit. Vous voulez être béni de Dieu? Commencez à marcher dans le nom de Jésus-Christ. Commencez à rester en contact, à lui parler, à demander pardon de vos péchés, à mettre vos vies en règle, à lui demander le Saint-Esprit, à aller dans les réunions pour aller louer le Seigneur, puis chanter des chants pour élever son nom, pour le glorifier, pour marcher en contact avec ce Dieu-là. Puis vous allez voir comment ce que son nom va vous procurer, des premièrement, d'être pardonné, de recevoir le Saint-Esprit. Vous allez expérimenter sa présence. Vous allez être exaucé dans vos prières. Vous allez avoir des guérisons, des délivrances pour vous puis pour les autres. Puis Dieu va vous ouvrir des portes. Tout ça dans le nom de Jésus-Christ. Tout ça, c'est dans le but d'accomplir ce qui a été dit par Jésus lui-même dans Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. En mon nom. Voyez-vous, on a tout à gagner d'être dans le nom de Jésus-Christ. Prions. Père Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, que nous méritons rien. Comme on l'a vu dans ta parole, Seigneur, tous les mérites pour obtenir quelques exaucements sont tous à cause de ton nom. Je te remercie, Seigneur, d'avoir envoyé ton fils Jésus mourir à la croix pour payer pour la dette de mes péchés. Merci qu'il soit ressuscité et qu'il ait aujourd'hui le nom au-dessus de tout nom. Puis que par son nom qu'on puisse obtenir le pardon, le Saint-Esprit, d'être en contact avec toi, puis d'obtenir des exaucements de prière. Tout nous est ouvert à cause de son nom. Je te remercie, Seigneur, de nous révéler cela. Garde-nous dans la foi, dans ce nom, afin de saisir à chaque moment de notre vie les bénédictions que tu veux nous donner à cause du nom de Jésus-Christ. Je te remercie de toutes ces choses. Je te rends grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen.